RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous tous les mardis en podcast sur RMC avec aujourd'hui une Dream Team expérimentale. Certains ont même dit que c'était Team USA pendant une Coupe du Monde. Il reste un taulier, c'est le meilleur ami de Joël Embiid, c'est Frédéric Weiss qui est avec nous. Salut Fred.
Bonjour, bonjour.
Un nouveau copain, hein?
Oui, mais moi j'adore me faire des amis.
C'est vrai, le jour où tu pourras, je sais pas, pour un mariage ou une grande fête, tu auras beaucoup de gens invités.
Non mais tu expliques la vérité, je pense que c'est un de mes joueurs préférés. C'est ça le pire.
À l'intérieur avec des mains magnifiques,
voilà. C'est ça qui
a été encore exceptionnel cette nuit, même si ça n'a pas suffi pour les Sixers. Ils se lèvent à minuit tous les jours, mais pas pour voir de la NBA, c'est Alex Biggerstaff.
Oui, salut tout le monde, salut Arnaud, t'aurais pu t'arrêter juste à la description d'entrée, hein. ça disait long sur l'émission.
Ah oui, puisque tu fais les journaux des sports en pré-matinal, matinal, voilà.
Il
pourquoi tu te lèves très
m'arrive.
Tôt.
Exactement.
Et un petit œil sur les matchs NBA,
généralement.
Pourquoi suis-je
encore d'ailleurs, je ne sais pas.
C'est l'avantage, t'as un petit œil sur les matchs NBA.
Ouais, alors un œil, vraiment.
Parce que l'autre est fermé en même temps.
Exactement.
Enfin, un petit nouveau. Ses idoles sont Herman Kunter, Rudy Gobert, Kylian Hayes ou encore Tijan Salin. C'est Félix Gabory. Salut Félix.
Il ne viendrait pas de choler, lui.
Alors on me dit, de sources indiscrètes, que tu as même un poster de Cholet dans tes toilettes.
C'est possible, oui, c'est possible, ouais. T'es très bien informé,
hein,
quand même. Hein.
C'est original, hein. Fred, t'avais pas un poster d'Hakeem Olajuwon dans tes toilettes
Ah non, parce que je le respectais, mais ceux que j'aimais pas, je les mettais dans les toilettes, ouais.
T'avais pas des palois dans tes toilettes
Oui, voilà, ça avait des plus.
Bienvenue en tout cas à toi Félix, on va s'intéresser à l'actu chaude des playoffs avec les Knicks. Est-ce que vous croyez à cette équipe? Ils mènent 2-0 face aux Sixers, match incroyable hier, ils ont conservé l'avantage du terrain, là on va aller pour deux matchs à Philadelphie. Croyez-vous aux Knicks ou ne croyez-vous pas en les Sixers? Ça peut être aussi la façon de voir ce débat. Ensuite, insouciance ou expérience, quel est le plus important en playoffs? Est-ce que cette insouciance peut prendre le pas justement sur le vécu? On pense évidemment à OKC, peut-être aussi à Minnesota avec son leader Anthony Edwards, même s'il y a quelques vétérans à côté. Pour la partie historique, vous allez me donner les plus grosses dingueries d'un joueur pour faire péter un câble à un autre, ou humiliation ou autre.
Ne choisissons pas les mots au hasard. Humiliation, non, ça n'existe pas dans le sport.
Les gestes les plus fous.
Les gestes les plus fous.
Voilà. Je crois que sans trahir de secret, Alex, on est plutôt sur l'humiliation que geste fou. Hein. Mais
oui, ou le souvenir impérissable.
Oui.
Ouais, c'est aussi.
C'est plus joliment.
De se laisser marcher dessus. Voilà. J'en dirai pas plus pour le teasing. Et puis le quiz sur l'actualité en général. Bon, pas très dur. Un petit 2 sur 5. 2,5.
2,5
voilà. Ouais.
Ok. Allez, donc personne ne m'a marqué de point.
Messieurs, c'est parti. Basket Time, épisode 189.
The Knicks are coming, y'all. They are coming.
Randall drives. Randall inside. Count it and a foul. Julius Randall. Time. Jalen Brunson from downtown. Look at Anunoby. Randall up ahead. Bounce. Back to Randall. Hammer jam.
Incredible defensive sequence by the Knicks.
That's the franchise's best run since 1969.
DiVincenzo.
Points in the last 28 seconds for the New York Knicks to take a 2-0 lead for the Sixers. Unbelievable.
Welcome to New York. This is what the people want to see.
Évidemment, du Alicia Keys, on ne s'en lâche jamais avec sa chanson New York, non, oui?
Non, si, on s'en lâche jamais.
Moi, je m'en lâche jamais.
Non, mais personne ne peut s'en lâcher.
Artiste incroyable, Alicia
Keys. Exactement. Scénario incroyable. Justement au Madison Square Garden cette nuit. Mené de 5 points à 30 secondes de la fin, les Knicks ont renversé les Sixers grâce à un 3 points de Jalen Brunson façon un peu kawaii. Hein, je rebondis sur le cercle et je redescends. Puis une interception dans la foulée sur la remise en jeu. Un rebond offensif et un tir de Dante DiVincenzo à 3 points. Scénario miraculeux donc. Croyez-vous en ces Knicks qui mènent 2-0? Vous l'avez entendu, dès que les Knicks gagnent 2 matchs de suite en playoff, c'est l'enflammade. Place à la parole aux plus knickerbockers d'entre nous. C'est toi Fred.
Franchement, c'est difficile de dire si tu y crois vraiment, parce qu'ils ont été vraiment malmenés par cette équipe des Sixers, avec un Embiid qui est sur un genou. Hein. Il a 50% de ce qu'il est capable de faire. Alors 50% pour lui, c'est 34 points. Donc c'est plutôt pas mal. Mais concrètement, tu te dis que cette équipe aussi tourne bien parce qu'il y a des joueurs comme DiVincenzo, comme Josh Hart qui font le taf. Hartenstein qui, à la fin, est super bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont trouvé quelqu'un pour prendre un petit peu le relais. t'as Jalen Brunson qui est pas vraiment comme il devrait être. Il est un peu en difficulté au niveau du shoot, mais par contre il perd pas beaucoup de ballons, il est plutôt propre, ça joue à la Thibodeau. Sauf que hier ils ont eu très très chaud, et t'arrives à Philadelphie 1-1, j'aurais dit que je croyais pas du tout aux Knicks, hein, clairement.
Un match où ils sont menés en première mi-temps, Alex. Ils passent devant dans le troisième. Le Money Time se néglige plutôt mal. Et pourtant, il y a les ressources en l'absence de Julius Randle, qui est allez, normalement le go-to guy, même si on sait que c'est Jalen Brunson, l'homme clé de cette équipe.
Ouais, mais c'est ça. C'est un vrai match de play-off qu'on a vu. Et puis, c'est là aussi on voit à quel point l'importance de l'avantage du terrain peut être en play-off, parce que les Knicks, ils vont prendre deux matchs chez eux, là. Avant d'aller à Philly, ça va être plus compliqué, je pense, pour eux là-bas. Mais ce que j'ai vu hier, c'est ce que me rappelait, ce qu'avait dit Danny Green, quand même multiple champion NBA, donc il sait à peu près de quoi il parle. Il disait souvent l'importance en play-off, ce sont ces facteurs X. C'est eux qui font la différence pour aller chercher un titre, pour passer un tour, etc. Et là, c'est vrai que New York a démontré la force de à la fois de son banc, mais surtout de ces garçons qui sont derrière la star, qui est Jalen Brunson.
Ça fait bizarre de parler de banc quand tu parles de Thibodeau, quand même.
Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est un peu tout le contraste. Mais Brunson, il est à 829 au tir. Certains peuvent avoir des réserves quant au statut de superstar que ce garçon, aussi talentueux soit-il, puisse avoir.
9 tirs, ça te fait toi une star, presque.
Ouais, c'est un peu dans le mauvais sens du terme, mais quand je vois les deux premiers matchs de Josh Hart, en fait, qui est le héros inattendu et qui est un chouchou des supporters. Je crois qu'il joue l'intégralité du match hier, il sort pas.
Donc 48 minutes.
Voilà, ouais. Il va être cramoisi pour le match 3, mais c'est pas grave, les Knicks ont pris le bon avantage, et peut-être l'aspect psychologique. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour New York.
Factor X, Josh Hart, Félix, on sait qu'il a un grand cœur.
Ouais, moi j'y croyais pas du tout avant aux Knicks, avant ces deux matchs-là. Mais là, à 2-0, on est un peu obligé de dire que de tirer notre chapeau à Thibodeau et à toute cette équipe. J'y croyais pas parce qu'en fait, sans Randle, qui est clairement, vous l'avez dit, hein, le meilleur marqueur, enfin le deuxième meilleur marqueur de loin, j'avais regardé sur 46 matchs, on est sur du 24 points de moyenne.
Est-ce qu'il joue pas mieux, Félix, sans Randle?
Ouais, mais
non, mais c'est une vraie question.
T'as plus qu'un croqueur qui est quelque part Brunson, parce que c'est son style.
En playoff, quand même, c'est important d'avoir des deuxièmes options offensives. Tu vois, quand même, derrière Brunson, on le voit en plus au shoot, il est pas du tout bon. Là, ça passe parce que t'as Josh Hart, t'as DiVincenzo qui sortent un peu du bois. Sur une série entière, je suis pas sûr que ça peut durer, en fait, sur 6, sur 7 matchs.
Alors, DiVincenzo, ça fait quelque temps quand même qu'il est plutôt performant. Josh Hart, oui, c'est pas un gros scoreur, mais son abattage, il est monstrueux depuis
rebonds.
Quelques temps aussi. Rebond, il est très présent au rebond, il peut faire des... Il a même fait un triple-double, je crois, il y a pas très très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui apporte énormément dans son volume de jeu. Mais je te rejoins, c'est vrai que normalement, dans une équipe qui gagne, t'as besoin de deux mecs capable de, au moins deux, de capable de scorer. Puis là, du côté des Sixers, parce que t'as Embiid et Maxi, et t'as Harris qui peut t'apporter des points, t'as d'autres mecs autour, mais t'as deux superstars, et c'est vrai que ça peut manquer de ce point de vue-là. Mais la force de cette équipe de New York, pour moi, c'est le collectif.
Bah, c'est la chimie, c'est la chimie, parce que New York, c'est vol au-dessus d'un
coucou. La recette Thibodeau, hein, c'est ça, c'est
illuminés,
son basket.
DiVincenzo et Artier, c'est des illuminés totales. Même Hartenstein, il fait un match
incroyable.
Complètement
le
dingue.
Le rebond offensif qu'il va chercher à la fin.
Et ça, avec un public déchaîné. Et ouais, ce qu'il faut souligner, c'est la défense aussi, en fait. C'est la défense aussi qui peut faire la différence sur ce type de série pour New York face à Philly.
Alors, je suis désolé, je suis obligé de le placer. Geoffrey Charpie me dit dans l'oreille que Geoffrey Charpie avait dit déjà que New York avait cette capacité à défendre et que c'était une belle surprise.
Oui, mais il n'est pas là pour le dire. Donc ouais, ça
obligé, je suis sa marionnette. C'est Jeff Panacle.
Alors, c'est vrai qu'on s'enflamme un petit peu sur les Knicks. On les voit à 2-0. Mais Fred, quand tu vois ce qu'ont fait les Sixers hier... Ils sont tout proches quand même de le prendre et de récupérer l'avantage du terrain. Donc, ils sont là aussi. On sait que ça ne va pas être la même à domicile. Est-ce qu'on ne les enterre pas aussi un peu trop vite dans la hype des Knicks?
Alors, à mon avis, on les enterre un petit peu vite parce qu'effectivement, ils perdent le match. Les Knicks, ce n'est plus tout la même chose.
On ne dit pas qu'ils sont qualifiés. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que les Sixers à la maison, déjà, ils vont mieux jouer, évidemment. Et c'est là que je ne rejoins pas tout à fait Alex. On parle d'avantage du terrain. Moi, je trouve que tu as une pression énorme de commencer par deux matchs à la maison. C'est-à-dire que tu en perds un, tu te déplaces, tu en as deux à l'extérieur.
Dans le sens où tu as deux des meilleurs publics de la NBA, oui, en fait, avec toi en play-off.
Bien
c'est plutôt
sûr.
Ça l'avantage.
Sauf que tu imagines, tu perds là. C'est-à-dire que tu perds directement l'avantage du terrain, ce qui, franchement, ça joue à très très peu.
Je m'en barre pas sur ce terrain avec toi. Imagine, tu gagnes.
Oui, non, mais bien sûr. Mais bah voilà. C'est que là, c'est que ça s'est joué à tellement peu que ça peut tomber des deux côtés. Bah c'est ça que je veux dire. Et ça peut tomber sur le mauvais côté pour New York. Et là, on n'est plus en train de parler de la même chose. Là, on se dit, est-ce que les Sixers vont passer et battre New York facilement si ça se passe comme ça?
J'ai dit, j'y crois, Onyx.
T'es d'accord, bon. Félix, sur la pression quand même des Sixers, parce que t'es mené 0-2, tu sais que si t'en perds un, il y aura une balle de série pour les Knicks au match 5.
Là, ils l'ont perdu eux-mêmes, hein, les Sixers, le match. Hein. Quand tu vois la remise en jeu.
Ça se plaint d'une faute, d'un maillot tiré.
Bon, c'est les playoffs, hein.
Mais même Nick Nurse se plaint, et ça m'a surpris.
Oui.
Autant que les joueurs se plaignent.
C'était la soirée des plaintes.
Après, ils se plaignent aussi du fait qu'ils auraient demandé un temps mort. Ils auraient demandé un temps mort, d'ailleurs, et ils veulent voir si c'est revu par la NBA. Alors, le match ne sera pas à rejouer, évidemment, sauf que, si c'est le cas, c'est un vrai problème.
Félix, sur les Sixers.
Sur les Sixers, moi, je pense que ça va retourner. Enfin, à 2-2, je pense, au bout de ça va revenir. On sait très bien, on le dit toujours, une série, ça commence quand une équipe gagne un match à l'extérieur. Pour moi, les deux prochains matchs, ils sont pour les Sixers. Je ne sais pas votre avis, mais moi je suis un peu rassuré sur l'état de Joel Embiid. Tu l'as dit Fred, il est sur une jambe, mais sur une jambe il est monstrueux. Et j'ai l'impression que pour l'instant ça tient. Et il y avait la vraie question aussi, c'est est-ce qu'il allait pouvoir être dans le rythme pour les playoffs, parce qu'il est revenu très tard sur la saison régulière. Et pour l'instant, le rythme, il a l'air de l'avoir. Je ne sais pas si vous êtes rassuré par rapport à notre ami Joël.
Et au-delà de Joël, je rajoute Maxi, à chaque fois, les deux sont game time decision. Hein.
C'est surtout, ouais.
On
ouais.
prend la décision le matin, est-ce que tu joues ?
Mais il était malade, Maxi, en plus. Et
oui.
Heureusement.
Et ça se voit tellement.
Non, mais entre Joël Embiid qui joue sur une jambe et Maxi qui est malade juste avant, ils mettent 69 points. Ah, heureusement,
Maxi qui est dans la course pour le titre de meilleure progression de l'année en NBA. Ce mec-là est rentré dans une dimension, mais juste indescriptible. Et je pense qu'avec ce type de garçon, je me fais même plus de soucis par rapport à Embiid, tellement Maxi, je pense, peut avoir la série aussi entre ses mains, en fait.
Ouais, mais j'ai un petit peu peur, parce que des mecs comme Harris ne sont pas vraiment capables de se transcender. Ils ont un volume de jeu qui vont faire que Embiid soit là ou pas. Et ça peut être handicapant si Embiid n'est pas au top à 100% par rapport à son genou.
Est-ce que c'est la confrontation qui vous intéresse le plus de ces matchs de play-off ? Il y en a qui nous intéressent moins.
Moi, je préfère les Cavs Magic. Vraiment, c'est ceux que j'ai préférés.
Non, sur le côté série à suivre, est-ce que c'est celle-là que vous mettez
Moi, j'aime bien les Wolves Suns.
Ouais, Wolves Suns, c'est pas mal. Ouais.
Parce que c'est opposition de style complet. Et je trouve que ça, c'est intéressant.
C'est rafraîchissant.
C'est rafraîchissant, exactement.
On va en dire un mot tout à l'heure avec Anthony Edwards, mais disons un mot de Denver Lakers. Aussi avec Denver qui revient de moins 20 en début de troisième quart-temps et qui s'impose grâce à un tir incroyable de Jamal Murray.
Bah, tu parlais de séries qui pouvaient tourner d'un côté comme de l'autre. Franchement, les Lakers, ils sont à 0-2, mais sur les deux matchs, ils passent pas loin quand même de faire une belle surprise.
Ah oui, et ça change tout. Là, ça mettrait une pression énorme. Mais en même temps, LeBron l'avait dit. Hein. Là, on est au complet. Ça sera pas un sweep, ou en tout cas pas aussi facile que l'année dernière. Et ils sont en train de le montrer, effectivement. Les Lakers, personne n'avait vraiment envie de tomber contre eux. Ils sont là. Tu pensais être premier de la saison régulière, tu l'es pas. Tu tombes contre les Lakers. C'est pas le plus facile.
Maintenant, ils auraient le meilleur défenseur de l'année avec eux. Peut-être qu'ils auraient pris une manche. Mais...
on va en dire un mot d'Anthony Davis.
Mais Rudy Gobert, il est au Wolves, justement.
Félix, sur les Lakers, tu les voyais pouvoir autant accrocher Denver. On sait que c'est toujours particulier de jouer à dans le Colorado à 1600 mètres d'altitude.
Honnêtement, non, je ne les voyais pas les accrocher autant sur les deux premiers matchs. Je pensais vraiment à un 2-0 plus facile pour les Nuggets. Mais en même temps, là, ils ont fait le boulot, ils sont à 2-0, c'est le champion qui a parlé. Quand on voit sur la dernière action de Jamal Murray, c'est un shoot à égalité, hein, donc c'est beaucoup moins compliqué en fait quand on de prendre un shoot au buzzer comme ça. Il faut le mettre
derrière. T'as pas de pression.
Exactement.
Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout le même shoot que si t'es mené d'un point, si tu mets pas, tu perds. Là, il y a aucune pression, tu rates, tu vas en prolongation, ouais. C'est pas très grave.
Mais c'est le champion, c'est l'expérience, on le voit en plus. Non. Le calme sur la remontée de balle, moi ça m'a un peu marqué avec Jamal Murray qui remonte tranquillement, le système se met en place, les écrans, ça va mettre le shoot à deux points.
Ouais, Jokic qui fait son chantier déjà dès les 10 premières minutes, tu vois le ton du match, je crois qu'il était à 10 points, 10 rebonds dès les 10 premières minutes, Jokic.
Et Anthony Davis, qui s'est plaint de ne pas être dans la course pour meilleur défenseur de l'année, Bam Adebayo, Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Est-ce que vous trouvez qu'il a répondu ou pas hier quand on voit les stats en triple-double de Jokic?
Cette 27, question est
20 rebonds.
Arnaud, tu mérites mieux que poser cette question orientée. Est-ce que, pour moi, il peut être dans la discussion? Oui, parce que ce qu'il dit, c'est pas complètement faux. C'est un grand qui peut sortir fort sur les pick and roll, qui peut switcher,
qui compte énormément,
qui défend bien.
Tu voulais dire, est-ce qu'il peut mieux défendre sur la dernière
action? Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est une question orientée.
Je traduis le Valadon, moi.
Oui, mais c'est une question orientée. Évidemment, je ne peux pas te dire que oui, là, sa sortie est très mauvaise dans le timing parce que juste après, il se fait défoncer. Mais concrètement, ce qu'il dit, ce n'est pas complètement faux.
Oui, pas respecté, mais bon, quand on voit la sortie d'hier, son match...
Oui, après, si on prend l'ensemble et pas juste la sortie d'hier, Anthony Davis a prouvé maintes et maintes fois que c'était un des meilleurs défenseurs de la Ligue et que de toute façon, il a les stats qui parlent pour lui et l'expérience qui parle pour lui. Mais c'est vrai que bon...
Après, t'enlèves qui dans les trois, surtout.
Oui, c'est ça.
Non, mais la vraie question, c'est ça. T'enlèves qui.
C'est exactement ça. Puis, même, je veux bien qu'il défende sa paroisse.
Après,
mais...
c'est peut-être aussi l'accumulation des dernières années.
Pourquoi il dit ça, là, maintenant ? Il a un match important juste derrière.
Et tu sais que tu vas te porter la poids. Mais, mais surtout, tu sais que tu vas tomber contre Jokic. À quel moment tu te dis...
Parle pas et prends le match.
C'est le moment de dire que c'est moi le meilleur défenseur. Jokic, il va t'expliquer, il va te mâchouiller, et après, tu vas comprendre.
Pour terminer sur cette série qui va aller à Los Angeles, que les Lakers peuvent revenir à 2-2.
Ouais, ils prendront un match, je pense. Non, 2-2, mais ils prendront un match.
Et moi, je pense pareil. Ils prendront un match, ça tournera à 3, hein, je pense.
Attention à la dynamique, parce que c'est les Lakers, c'est pas tout ce qu'il va proposer. Ils ont envie, LeBron, il a envie. Anthony Davis, je pense qu'il va vouloir se rattraper aussi.
Ils se sont plaints de l'arbitrage, et notamment LeBron James.
Ça se plaint beaucoup, l'arbitrage.
Bah oui, non, mais franchement, tu regardes...
On aurait dû prendre Geoffrey Charpie, finalement, pour parler de ça.
Tu regardes toutes les articles en tête sur les sites ESPN. Moi, je me suis levé ce matin. LeBron James, énervé après l'arbitrage, dans le troisième quart-temps, il y a un coup au visage sur D'Angelo Russell. Il y a le coach des Nuggets qui demande un challenge, et il retourne... après visionnage vidéo la décision, donc c'est un ça fait partie des éléments moteurs.
Quand on râle contre l'arbitrage comme ça, Fred, tu le sais très bien, hein, toi qui as été basketteur de haut niveau, tu as fait des grands matchs.
Très bien, Fred. Hein.
Ouais, j'ai pris un coup de pression pour rien, mais tu es Sacha Alix en fait.
Dans le côté, Fred, tu connais le sport de haut niveau, c'est de la frustration.
Je suis d'accord.
Quand tu râles comme ça sur l'arbitrage, c'est de la frustration.
Il y a certainement une frustration, mais il y a peut-être des choses qui sont vraies aussi. Je te dis, si par exemple, en revenant aux Sixers, on revient à ce qu'ils ont dit, si Nick Nurse a bien demandé un temps mort, que l'arbitre l'a regardé et qu'il ne lui a pas accordé, je peux comprendre que dans ce cas de figure où le match se joue à très peu, alors tu ne perds pas vraiment le match à cause de ça, mais les circonstances font que c'est compliqué quand même.
Le nombre de fois où LeBron a eu des coups de sifflet de star.
Jamais.
Allez messieurs, on passe à la deuxième partie de ce Basket Time sur l'insouciance ou l'expérience. Quel est pour vous le plus important ?
The Oklahoma City Thunder, are they too young to win an NBA championship?
The Boston Celtics have elevated, as far as I'm concerned, to the favorite to win it all.
Tatum cycles in and scores, plus the foul.
Pure muscle. Spin, finish, through contact. And one.
Harden a deep three. You bet!
Edwards around the double team. Got a look. Butter.
Ant-Man in full effect.
And interesting now to see Kevin Durant take on the assignment of Edwards.
Is all that youth and inexperience really insurmountable?
Gilgeous Alexander, guarded by McCollum. Flicks it up and in! And contact!
25-year-old Shai Gilgeous Alexander.
Murray makes a move.
Jamal Murray with the step back over the 7-footer Anthony Davis. Calling game.
Insouciance ou expérience, ça tombe bien dans la team. On a le vétéran Fred Weiss, on a le rookie Félix Gabory et le joueur confirmé Alex Biggerstaff.
Et toi, tu es quoi ?
Le joueur moyen.
Moi, je suis un playmaker. Là, je suis, je distribue.
Tu distribues, ouais.
Je distribue, j'évite les pertes de balles.
À l'ancienne ou nouvelle génération ?
Non, à l'ancienne.
À l'ancienne,
John Stockton, ce que tu veux.
Donc, t'es un comptable, quoi.
Oui, exactement. le côté anti-vax en moins, peut-être. Bon, messieurs, OKC, premier de la saison régulière, a réussi son entrée. Une victoire seulement de 2 points contre les Pelicans sans Zion Williamson. Mais quand on voit ce que dégage cette équipe avec son leader, Shai Gilgeous-Alexander, sa jeunesse, est-ce que vous vous dites que l'insouciance peut marcher en play-off ou l'expérience reste toujours prioritaire, Fred ?
Moi, je dis que ça peut marcher. Ça peut marcher, évidemment, surtout quand tu as une équipe comme OKC qui court dans tous les sens, qui a un joueur extraordinaire comme Shai, qui n'a pas une expérience folle, mais qui maintenant quand même est un joueur reconnu et considéré en NBA. Tu as Chet Holmgren qui fait son premier match de play-off. Il est fantastique. Il est fantastique. Il est au contre, il est au rebond. Il conteste et shoot. Il est fantastique. Et que dire de Jalen Williams, qui est aussi un joueur extraordinaire. Alors oui, je pensais qu'ils allaient s'imposer un peu plus facilement. Alors oui, je pensais qu'ils allaient marquer plus de points parce que 92-94, ça fait penser plutôt à la NBA des années 90. Et surtout quand il n'y a pas Zion de l'autre côté, Je pense qu'ils ont une possibilité de faire mieux, mais c'est vrai qu'il fallait rentrer dans les playoffs, premier match de playoffs. Mais dans cette série, en tous les cas, OKC est largement favori. Ouais.
Est-ce qu'on, parce que les Pels ne sont pas à 100%, il y a un petit côté trompe-l'œil, Alex, sur ce premier tour d'OKC. On attend à ce qui passe, évidemment.
Non, mais tu l'as dit, ils sont très très jeunes. Je pense que c'est important de recontextualiser parce que cette équipe-là, elle est très très jeune et je pense qu'elle subit aussi énormément de pression par un statut qui fait que tu entres dans les playoffs comme ça et que tout le monde attend à ce que tu passes un 4-0 ou un 4-1. Et voilà. Sauf que cette équipe, elle est particulière. Elle est très, 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 très jeune et je trouve qu'ils ont quand même très bien négocié un premier match avec la pression qui va avec. Le fait que Zion ne jouait pas leur a mis encore plus la pression pour être obligé de remporter ce match 1. Et je trouve qu'en plus, sur une base d'un match assez âpre, assez défensif, ils ont très très bien négocié la chose. Maintenant, qui dit insouciance dit forcément, dans l'opposé, manque d'expérience. Et là-dessus, je pense que ça peut jouer pour OKC de remporter une série. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce qu'ils peuvent gagner le titre grâce à l'insouciance, je te réponds tout de suite non.
On est tous d'accord.
Pour rester sur la série face aux Pels, Félix, bon, Zion, on dit qu'il pourrait peut-être revenir. C'est un claquage, hein, je crois que c'est ischio, blessure pour Zion Williamson.
Un claquage avec la taille de ses muscles, c'est pas demain quand même. Hein.
Ouais, est-ce que là tu actes toi aussi, Félix, tu penses que ça va faire 4-0, 4-1 pour OKC parce qu'il y a
quand même
deux
classes d'écart. Toi qui es musculeux, Félix,
ouais,
dis-nous.
Merci de l'avoir remarqué, Fred. Non mais pour la série, je pense que ça devrait passer pour OKC, mais après, comme Alex, tu l'as dit, la question c'est jusqu'où ça peut aller après. Et moi je pense que c'est sur les tours d'après où directement on va pouvoir
Clippers
voir les
Dallas derrière.
Exactement.
Hein, sinon,
ouais. Et je pense que tout le monde a fait un peu le jeu des braquettes ces dernières semaines. Pas grand monde ne met OKC en finale de conférence. Donc en fait, la question c'est ça, c'est pourquoi au deuxième tour sur un potentiel Clippers-Mavericks, pourquoi on met tous, je pense...
Toi, t'as mis qui ?
Sur quelle...
La conférence Ouest, aller à la finale de conf.
Moi, bah, pour moi, c'est assez clair, finale de conf, ça sera Nuggets contre le vainqueur de Dallas Clippers, je pense. Comme il n'y a pas beaucoup de surprises hein, là-dedans, je pense que c'est un peu ce que tout le monde voit, mais...
T'es d'accord, Alex ? Je vois que c'est opiné du chef.
Pareil, j'ai mis exactement comme Félix. J'ai du mal à voir une autre équipe sortir du lot que ces trois-là.
Et c'est pour ça que cette question d'insouciance pour OKC, c'est là où ça pêche. En fait, c'est au deuxième tour, ils vont avoir un Doncic en face ou avec Irving, avec les Mavs, où ils vont avoir des Clippers. On a du mal à les voir faire la différence.
Mais dans quel état vont sortir ces deux franchises de cette série, hein, Mavs Clippers
ça peut être très long. On sait que cette série peut être très long.
1-0 pour les Clippers.
Et moi j'ai les Wolves quand même qui m'intéressent.
Ils vont jouer Denver. Moi, Denver ne fait pas. Ils sont quand même à moins 20 chez eux dans le troisième quart-temps.
Une profondeur de conférence avant l'heure.
Une profondeur de banc.
Concrètement, repensez un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière. L'équipe qui a le plus embêté Denver, c'est les Wolves. Oui. Sauf qu'il manquait des joueurs. Il y avait une ambiance délétère dans l'équipe.
Gobert n'était pas aussi bien intégré
Exactement.
Qu'aujourd'hui.
Donc
et
je me dis qu'il y a bien une équipe qui peut embêter Denver. Alors, les Lakers aussi sont en train de le faire, mais qui peut vraiment les embêter au point de les sortir. Les Wolves, je trouve que c'est un potentiel.
Surtout les Wolves du premier match là, contre les Suns, Incroyable. Où ils ont détruit Phoenix. C'était Kevin Durant et cette sauver la
Passation
patrie.
Passation de pouvoir, ouais.
Encore une fois, une guerre entre deux salles, deux ambiances, et c'est la défense qui a gagné. Et j'imagine que tu considères que du côté des Wolves, il y a de la jeunesse et de la fraîcheur, etc.
En fait,
aussi. Sauf qu'il y a un complément.
C'est
et
ça.
C'est là que c'est intéressant.
Et en fait, c'est Edwards, quelque part, qui insuffle ce vent d'insouciance à des joueurs confirmé, Terrence Gobert, c'est pas des jeunes. Hein.
Conley
à la main.
Conley qui envoie le ballon à chaque fois où il faut, qui est
c'est
propre.
C'est le cocktail parfait de notre thème de
Exactement.
Notre débat.
Exactement. C'est pour ça que je reviens aux Wolves, parce qu'on parle justement de savoir, est-ce que l'insouciance ou l'expérience prime, le combo des deux, c'est pas mal aussi. Et je trouve que ceux qui ont ce meilleur combo, en tous les cas à l'Ouest ou moins, parce que j'éviterai de parler de Boston par exemple, mais le meilleur combo sur le papier, c'est les Wolves.
Parce qu'on sent Félix en play-off. Moi, j'ai regardé les dernières équipes championnes ou qui sont allées loin. T'as rarement les jeunes faufolés. C'est toujours quand même des
bien
équipes
sûr.
Aguerries.
T'as les mecs pour les tenir un peu. Bien sûr.
Justement, on avait l'exemple de OKC. 2012, rappelez-vous, Oklahoma City va en finale NBA. Alors, l'équipe n'était pas aussi jeune que celle d'aujourd'hui. Mais à l'époque, Durant, Westbrook, Harden, c'était sexy au possible sur le papier. Ils étaient jeunes à l'époque.
Ibaka.
Il y avait Serge, il y avait quelques, je crois qu'il y a trois trentenaires dans l'équipe de 2012. Il y a Ibaka, Mohamed et je sais plus lequel le dernier. Mais bref, c'était
encore, quand même ils avaient fait venir Derek Perkins, je crois.
C'est Derek Fisher, je crois, le dernier trentenaire, pour vous dire.
Mohamed, c'était Nasr Mohamed.
Ouais. Et cette équipe-là va en finale et tout le monde dit c'est incroyable ce qu'ils dégagent, c'est les nouveaux rois de la NBA, etc. Sauf que en finale, ils tombent sur plus expérimentés.
La deuxième année du three-peat.
Et voilà.
Et c'est
ce qui leur coûte cher, mais l'équipe d'OKC d'aujourd'hui est encore plus jeune que celle-là et je dirais honnêtement moins talentueuse en plus. Donc ce qui me fait revenir sur le début du débat, je pense qu'encore une fois il vaut mieux l'expérience que l'insouciance.
Premier titre du Big Three de Miami qui avait perdu l'année d'avant contre Dallas.
Mais l'histoire nous montre qu'il faut passer des paliers en fait avant de pouvoir aller loin, et notamment moi je m'étais noté un peu pour les Nuggets, on en a beaucoup parlé. Ils sont champions l'année dernière, c'était leur cinquième campagne de play-off depuis un peu l'avènement
leur première finale.
C'était leur première finale, mais ils ont mis cinq campagnes de play-off, c'était au bout de la cinquième où ils sont allés chercher le titre.
Ouais,
ça montre qu'il faut passer des paliers.
Rien n'est gratuit.
Ouais. Moi, c'est un peu les réserves que j'ai avec Minnesota.
La régularité au niveau du coach qui est resté aussi du côté aussi, des Nuggets, il y a eu un vrai travail avec la draft, mais en même temps, on les fait progresser. On ajoute des pièces comme Aaron Gordon, je trouve que c'est
hyper intéressant. Ça, c'était une étude du MIT dans les années 2000. Je ne sais pas pourquoi je place ça, mais... Ils avaient calculé sur 800, plus de 800 matchs NBA, 800 saisons NBA, pardon, des 30 équipes en cumulé. Pour trouver qu'est-ce qui était la clé de la réussite en play-off, et en fait c'est l'expérience pas de l'équipe mais du coach qui était ressorti,
et c'est l'expérience du coach de plus en plus qui fait que... c'est que tu vires les coachs dès qu'il n'y a pas de résultat,
et puis il y a surtout un rajeunissement des coachs en NBA.
Ah mais ça c'est une bonne nouvelle, parce que justement ça va leur permettre de travailler,
et du coup l'expérience n'est pas forcément là, tu vois, au départ
elle ne vient pas tout de suite, mais justement elle réussit à s'acquérir.
Justement 2012 c'était Scott Brooks qui en était à sa 3e ou 4e saison seulement, tu vois.
Ouais, je cherche l'exemple de Nick Nurse 2019, saison, enfin il est coach rookie il me semble, et directement titre avec les Raptors. Bon, il y a une belle équipe derrière. Oui, non, mais ça aide. Mais le coach quand même, c'était sa première saison.
Non, bien d'accord avec toi.
Oui, c'est vrai que c'est rare. Alors Boston, le coach Joe Mazzulla, ça sera pas sa deuxième.
Ouais.
Justement, on fait un
Doc
petit
Rivers dans tout ça.
Et deux Rivers. Faisons juste un petit tour avant de passer à la partie historique. Bon, Cleveland-Orlando, on passe.
On passe pas. C'était magnifique, un super match. Non, mais on parle d'équipe jeune. Il faudra surveiller cette équipe. Alors oui, je trouve que c'est la
Garland,
preuve.
Garland, Mobley, Allen.
C'est la preuve exacte qu'une équipe très jeune a besoin de passer des paliers. Sur le papier, le Magic, c'est fantastique. Mais à la fin, quand tu joues contre une équipe qui est un peu plus sérieuse, t'as du mal.
Il en manque peut-être quand même un
L'expérience.
Gros...
Ouais,
Magic, un meneur.
Oui, c'est ça.
On dirait qu'ils ont juste un an ou deux de retard par rapport à Cleveland,
c'est
dans le même
ça.
Développement, en fait.
Exactement.
Ils ont un vrai leader, Cleveland, qui est Donovan Mitchell.
Ouais, mais qu'ils ont ramené. Donc
il y a un gars qui a déjà des campagnes de play-off avec Utah derrière lui, oui, même avant en plus.
Exactement, donc c'est vrai que Orlando, ça se met en place, il en manque peut-être un ou deux joueurs clés.
Ouais, mais il faut se rappeler quand même que les Cavs ont pris une belle rouste l'année dernière, et qu'ils ont progressé cette année, que justement on franchit les paliers par palier en NBA. Et je suis d'accord avec toi, Félix.
Wolfson, on en a dit un petit mot. Milwaukee, Indiana, le point d'interrogation Giannis, évidemment.
Ouais, Félix, mais honnêtement, ils sont au-dessus. Pour moi, les Bucks sont au-dessus sans Giannis. Lillard, quand il joue comme ça, c'est un vrai joueur de basket. Il peut apporter. Middleton, qui recommence à jouer au basket lui aussi. Mais pour moi, c'est au-dessus.
Ça colle à notre thème parce que justement, Indiana essayait de faire tourner cette série sur le côté de l'insouciance. Et ils avaient des joueurs pour ça. Mais au final, voilà, l'insouciance sera trop forte.
Qui a été le meilleur joueur du premier match? Siakam. Avec de l'expérience.
Ouais, mais c'est Haliburton, voilà. Un peu en retrait depuis le All-Star aussi. Hein, c'est vrai que pour...
Mais il ne met plus un panier, donc c'est plus compliqué quand même.
Maintenant, tu t'intéresses à qui... Derrière qui Milwaukee pourrait jouer, là, la demi-finale de conf.
Ça peut être sympa.
Philadelphie ou New York face à Milwaukee.
Là, par contre, je ne sais pas sur qui je mise. Et là, il faudrait Giannis, parce que sinon...
Alors qu'un Boston-Cleveland, possible en...
Ça va être une boucherie.
Ouais, donc Boston-Miami va être une boucherie, Félix, et Boston-Cleveland aussi une boucherie.
Ouais, mais Boston-Miami, il n'y a pas Butler.
Oui, je sais, je dis pas.
Mais franchement, faire une boucherie sans Butler, c'est compliqué. Hein.
Félix.
Ouais, contre Miami, je pense qu'avec l'absence de Butler, ça va être très compliqué. Mais même avec Butler, moi, avant, quand justement on parlait des brackets, quand on les faisait, même avec Butler, moi, je voyais pas Miami les embêter trop longtemps. Je pense qu'on est trop resté sur l'année dernière. On a vu Miami faire un run de playoff juste incroyable. Mais en fait, ils vont pas faire ça tous les ans. Et tu le vois très bien là sur la saison. Ils ont jamais rien enclenché comme dynamique. Et ils vont pas nous faire le coup tous les ans, en fait, Miami. Donc,
beaucoup de blessures. Hein, Tyler Herro qui était blessé en saison régulière.
Spoelstra, un génie quand même. Moi, je pense qu'avec Jimmy Butler, ça peut faire ça peut faire flipper un peu Boston. Alors là, franchement, ça les fait pas flipper du tout. Ils vont rouler dessus.
Donc, voie tracée vers la finale de conf.
Oui, évidemment.
Oui, pour Boston, oui.
Et après, on verra peut-être la finale. On les annonce, je pense, dans tous vos brackets.
Oui.
Boston en finale.
Oui.
Boston
oui,
pour
oui.
Alex.
Oui.
Oui, oui. Oui.
Moi, j'espère pas.
Pourquoi ?
Parce que j'aime pas.
Réponds à la question.
Oui, mais j'espère pas.
J'ai envie de vous mettre au piquet. Vous n'avez pas le droit de dire que vous n'aimez pas Boston.
Pourquoi ?
Parce que quand je suis aux commandes de cette émission à la place de Pierre, ce sont mes
nouvelles
règles. My rules.
Alors, donc je vais expliquer. Je ne sais pas que je n'aime pas Boston, mais je trouve que c'est tellement obvious que c'est la meilleure équipe que j'aime bien que ce soit le petit poussé qui gagne.
Oui. Ah, pour le coup, oui. Bah, ça, c'est. Oui,
voilà.
C'est un réflexe
mieux
très
expliqué.
Français. Hein.
Bah oui, je suis franco-français.
David contre Goliath, tout ça. Et enfin, pour terminer, Clippers, Mavs. Des Mavs qui se sont fait presque rouler dessus, j'ai l'impression. Oui, rouler dessus dans le premier match. Hein.
Assez surprenant, oui. Assez surprenant. Mais quand
sans Kawhi aux Clippers.
Oui, oui. Quand t'as une équipe en fait coupée en deux, les Mavericks, ils se sont pas dit tous de jouer à la même heure, je crois. Hein. Il y a eu
ils n'avaient pas donné rendez-vous à tout le monde au même heure.
Voilà, ils n'avaient pas de montre tous, mais il y a eu gros problème. Mais je pense qu'ils vont se rattraper sur le deuxième match.
Sur le deuxième match, ils se rattrapent, ils gagnent. Et ben, t'as fait le taf. Hein. T'as récupéré l'avantage du terrain et tu retournes à Dallas. Donc, on sait que l'ambiance qu'il peut y avoir à Dallas. Faut pas les enterrer. Oui, le match 1 est raté, mais en même temps, c'est qu'un match perdu. Ça change rien. Donc, attention au match 2, effectivement.
Ah, ça fait une bonne claque en plus avant de.
Ah oui, ça te.
Au
ça te
début des playoffs, vaut mieux voilà, la prendre.
Félix, pour conclure,
tout dépendra de Kawhi. Si Kawhi Leonard revient rapidement, je pense que les Clippers restent quand même favoris. Parce que c'est un peu. Moi, je trouve ça très léger, en fait, derrière le duo Doncic Irving au niveau des Mavericks. Derrière, qui prend le relais quand les deux, ils sont.
Hardaway. C'est fort, c'est à plus de 15 points de moyenne.
Qui a très bien démarré la saison, qui était un peu plus...
Gafford, c'est fort. PG Washington, qui a fait des trucs depuis qu'il est arrivé. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est intelligent. T'as les deux, quand même, qui sont vraiment très très forts, qui peuvent faire jouer l'équipe. Je trouve un peu dur en disant qu'il y a rien.
Sur le match 1,
Washington,
Gafford, ils étaient pas du tout dedans. Et pour moi, c'est
parfait. Encore une fois, si tu veux les surprendre, autant pour faire un match 1 pourri et pour se rattraper sur le 2.
Mais
toi qui aimes choler, c'est ça qu'ils ont fait toute leur vie. Ils ont fait semblant d'être mauvais et ils ont défoncé les gens après. Et voilà, c'est ça.
Si tu compares avec Dallas, ça me va.
Bah non, on a pas dit qu'ils défonçaient tout le monde. C'est plus sympa quand même.
Oui.
Puis la meilleure en playoff quand même.
Objectivement, vrai salle mythique.
Ah ben merci. T'as des souvenirs?
Ah ben la mairie, franchement, c'est très impressionnant. La première fois que tu vas jouer à la mairie, tu sens qu'il y a une ambiance basket, tu sens que les gens sont connaisseurs.
Tu sens la tôle.
C'est
exactement ce qu'a dit Kawhi lors du match.
Il y a une pression. Mais Kawhi a dit, dès que je jouais à la mairie, c'était affreux.
T'as des souvenirs de match à la mairie, Fred?
Honnêtement, pas des souvenirs précis, mais vraiment l'ambiance la première fois. Ah si, j'ai un souvenir. J'ai joué à la mairie contre Paul Fortier. À l'époque, et donc je l'ai vu, je me dis, c'est qui ce gars-là? Il ressemble à rien du tout, je vais le défoncer. C'était un de mes premiers matchs. Il m'a mis 35-10.
Ah oui.
Voilà. donc depuis, je respecte Paul Fortier et je respecte Cholet, évidemment.
Jimmy Lebat en parlait un peu. Non, t'as pas trop côté Jimmy Lebat.
En équipe de France, beaucoup aussi.
Il parlait de la Meyre, parce qu'évidemment.
Lui, c'est un amoureux. Lui, il est reparti à vivre à Cholet, parce que justement, c'est concrètement, Cholet, c'est chez lui.
On a réussi à amener un débat Cholet, ça c'est quand même très beau.
C'est
un peu ma petite fierté, ma petite victoire.
Ton idole Choletez, comme ça tout le monde saura.
Mon idole, il y en a
Nando
beaucoup. Nando, j'aime beaucoup Nando De Colo.
Stephen Brun.
Pas Rigaudeau.
Je suis un peu trop jeune pour Rigaudeau.
Rodrigo Bois.
J'ai vu que les photos.
Tu sais,
vu Rudy Gobert.
Sinon, Sami Meria.
Sami Meria,
c'est le mec qui nous emmène vers le titre en 2010. MVP saison d'après de 2011. Fabien Causeur aussi, j'aimais beaucoup.
Cette phrase, j'étais trop jeune. C'est-à-dire qu'en fait, les pyramides n'ont jamais existé. T'étais trop jeune non plus. Hein. Il y a des preuves. Tu peux regarder.
Écoute,
images.
Le site Légende LNB vient seulement d'arriver. Comme ça, on va pouvoir voir les images.
Antoine Rigaudeau, fantastique joueur. Alors, Nando De Colo, je peux l'entendre, mais.
Non, sur Rigaudeau, j'ai pas d'émotion, je l'ai pas vu jouer en direct, c'est pour ça, je connais son parcours, mais oui.
Les bâtons d'un créé chez moi, l'émotion.
Un Sami Meria, un Fabien Causeur, là, c'est vrai que ça parle à mon petit cœur de supporter Choletais.
Voilà pour la page Choletaise, allez, on la referme. On salue évidemment tous nos amis et vous qui nous écoutez depuis Cholet.
Bien sûr.
C'est en podcast, vous pouvez
nous
écouter.
Vous avez une salle magnifique et continuez, franchement, un public comme
une identité et une histoire forte. Allez, la troisième partie de Basket Time avec les gestes les plus fous pour déstabiliser un adversaire.
He yelled in my face and he picked me up off the floor. So I just barked. I don't know.
I think he's talking to Mutombo. And he hits Stevenson blowing in the ear of LeBron James. And James
reaction. he can't believe it.
Trash talk used to be
That's
true.
The way we grew up.
Larry Bird, Michael, Gary Payton, and Reggie were the four best in my day.
We're in Chicago. We're sitting there on the bench. There's a quiet moment. Fan right behind us goes, "Hey, Willis, are you single? My grandma kind of likes you."
Iverson against Tyronn Lue. Baseline right. He backs up. He fires. Two ball. Got it again. He's way too good. He steps around Lue and drilled it.
Oh, so that's how you're going to play it. You going to do this? Okay, fine. That's all I needed. It became personal with me.
Pourquoi ce débat ? Puisqu'on a vu Jalen Williams aboyer. Alors sur Valanciunas, lui il dit que c'est avec le public. Après voilà,
il chante juste la chanson. Who let the dogs out?
Oh. Tu fais très bien le.
Ouais,
le chien.
Super.
Bien. T'as jamais aboyé sur quelqu'un?
Non. Non, je suis à peu près sain d'esprit.
On sait jamais. Hein, non. Mais t'as déjà fait un truc fou?
Jamais.
Jamais.
Mais ça. Je rigole. Je suis un mec hyper.
Je pensais qu'il allait dire tellement de fois que je m'en souviens pas, quoi.
Non, jamais.
Alors peut-être pour lui, c'est normal. Pour les autres, ça paraît fou.
Vrai.
Bon, messieurs, les gestes les plus fous pour déstabiliser un adversaire ou humilier, je l'inclus pour Alexandre. Merci. Et son choix. Commençons par le tien, évidemment. Voilà. C'est une image
celui
iconique.
Dans la catégorie. oui, c'est pas une dinguerie, en fait, ce qu'on a vu ce jour-là, mais. En fait, je pense que tu prends n'importe quel fan NBA comme ça dans la rue, tu lui donnes un indice sur cette scène, il pourra te la décrire en long et en large parce qu'il s'en souviendra. C'est l'un des moments les plus iconiques de l'histoire de la NBA. Ça a même failli devenir le logo de la NBA tellement il y avait une pétition qui avait poussé pour que cette image soit le nouveau logo de la NBA. C'est 2001, les playoffs, les finales. On est le match 1 entre les Lakers de Shaquille O'Neal et les Kobe Bryant et les Sixers de Philadelphie et d'Allen Iverson qui fait là la meilleure saison de sa carrière et les meilleures finales de sa carrière. Enfin bref, il est juste injouable. On est à 50 secondes de la fin quasiment. En prolongation, il vient d'inscrire une pelletée de points de suite. Allen Iverson, il est en train de tenir tête à ses Lakers incroyables. Et je trouve qu'il va faire un geste qui est une forme d'humiliation, mais sans parole, sans geste obscène, sans acte grave en fait, mais qui va rester dans toutes les mémoires. Il va partir sur sa droite dans le corner devant le banc des Lakers. Il a Tyronn Lue qui défend sur lui. Il part à droite, il revient, step back, il lui met sur la truffe. Tyronn Lue se pète la tronche devant lui et Allen Iverson, en fait, ne le voit pas au début, mais en se retournant, va enjamber Tyronn Lue, mais au ralenti parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Il l'enjambe, lui jette un petit regard devant le banc des Lakers et là, tout le monde en NBA se dit à ce moment-là, waouh, ce qu'il vient de lui mettre, mais est-ce que les Sixers pourraient pas remporter les finales NBA finalement ?
Et ce qui est drôle,
c'est
la non-réaction de Tyronn Lue, parce que beaucoup, tu fais ça à un joueur, il se relève et il l'embrouille.
C'est là où j'ai pas envie de le croire, parce que les deux protagonistes ont été interrogés depuis maintes et maintes fois, et Tyronn Lue a dit « Ah non, mais je le vis très très bien, c'est pas une humiliation, c'est arrivé comme ça, moi j'ai juste défendu, et puis je me suis retrouvé par terre. Voilà. »
Il le vit bien parce qu'il est champion NBA derrière aussi.
Ça a été bien sûr aggravé par les commentaires de Doug Collins à l'époque, etc. Blablabla, oui. Ça reste une des images les plus marquantes de l'histoire, tout simplement.
Fred Félix, vous trouvez ça fou ? Alors, c'est vrai qu'on est sûr, entre gestes...
L'image est folle, voilà.
Oui, l'image est folle. Moi, j'y ai pensé direct, hein, quand on a eu un peu les thèmes là, du podcast. Direct, ça te revient.
Félix doit revenir toutes les semaines.
Fred ?
Il donne raison à Alex, donc il doit revenir. Ouais, c'est bien.
C'est pas mal. Bon, allez, Fred.
Alors, présente-nous ton choix.
Nous sommes surpris.
Fred, un ami du bar tabac. Sean Kemp.
Ouais, j'y étais pas du tout. Oui, Sean Kemp. Alors j'ai hésité, hein, j'ai voulu prendre Reggie Miller quand il s'auto-étrangle.
Avec Spike Lee, énorme.
Avec Spike Lee à New York.
Ouais, mais là, c'est un geste fou là.
C'est
pour
un geste
coup.
Complètement. C'était dans le. Ne me regarde pas comme ça, Alexandre. C'était dans le conduit qu'on avait le droit de mettre.
C'est dingue.
Donc c'était hyper sympa.
Il fait juste un time's up, Reggie Miller.
Ouais, il s'auto-étrangle, il met la pression à tout le monde.
Il s'étouffe, il s'étouffe.
Aujourd'hui, il prend $100 000 d'amende.
Il était pas bien. Non, mais j'ai hésité. Mais je voulais un truc non violent, je voulais quelque chose de beaucoup plus beau, m'élever un petit peu au-dessus du débat. Et donc j'ai choisi Sean Kemp. Sean Kemp, on est en 92, c'est les playoffs, et les Sonics sont opposés aux Warriors. Il faut se rappeler qu'au match 2, Aston Lister, pour ceux qui se rappellent de lui...
Je m'en souviens de lui.
Non, mais a donné un coup de poing à Sean Kemp. Et donc tu te dis, il va lui rendre un coup de poing. Non, Sean Kemp, c'est pas ça. Sean Kemp, il va aller lui dunker dessus, le faire tomber. Alors le dunk en plus est magnifique parce qu'il coince le ballon entre la main et son avant-bras. Le dunk est fantastique, il fait tomber Lister et en tombant, il le pointe du doigt avec les deux mains. Et ça, c'est une image iconique pour moi. J'avais le poster dans ma chambre, mais pas dans les toilettes, parce que je respecte John Kemp. J'avais ce poster dans ma chambre, parce que l'image, elle est folle. Il est fléchi, il le regarde, il lui fait un peu comme s'il tirait avec un pistolet, bang, bang, mais avec ses doigts. Et je trouve que c'est la meilleure réponse possible. C'est de la paix en plus, il n'y a rien de méchant, alors que tout que mes collègues là vont parler de choses méchantes et d'humiliation.
Il lui fait mine de
oui,
c'est GTA quoi, c'est
non,
oh, c'est respectueux.
Ça aurait été tir dessus s'il avait levé les pouces, il n'a pas levé les pouces, il l'a juste pointé ça un petit peu, ça change absolument tout. Parce que tirer sans cette partie haute, tu ne peux pas tirer. Donc peu importe, c'était un geste fantastique qui a marqué toute une génération et qui a fait encore plus adorer Sean Kemp.
Joueur incroyable, Sean Kemp.
Ah, divertissant.
Athlétique,
oui.
Alors bon, évidemment des frasques en dehors du basket.
Alors il a 80 enfants et 80 femmes différentes. Je vois pas en quoi c'est des frasques, c'est la vie quoi.
Oui, bah comme toi.
Exactement.
Non, mais belle anecdote pour celui surnommé Rain Man, Sean Kemp.
Qui milite d'ailleurs énormément pour que la franchise de Seattle revienne dans le game, et je pense que ce sera celle qui reviendra avec celle de Las Vegas.
Clairement, quand on pense Supersonics, on pense Sean Kemp.
Bah, Payton
Gary Payton aussi. Ouais. Hein, ouais, oui.
Alors, moi, alors, je suis désolé.
Après,
je pense
d'être l'échelle. Voilà.
Oui.
Parce que moi, je jouais à NBA Jam à l'époque et tu pouvais choisir entre ces trois personnages.
Oui,
et j'avoue que
bah, moi, Vitaly Potapenko aussi, grand artisan des
séries. C'est vrai, il était dans NBA Jam.
Non,
dans
NBA Live.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Et c'est pas le même jeu. On comprend
pas
les torchons et les serviettes.
C'est pas les mêmes années non plus.
Non plus.
Voilà. Ouais.
Félix, ton choix pour quelqu'un qui ne mettait pas Antoine Rigaudot, t'es resté dans le old school, hein.
Oui. Bah vu que moi je suis quand même un expérimenté, j'ai quand même les petites références old school.
Il a failli dire les VHS. Il a pas osé. Trop jeune pour dire VHS.
Il les a aussi.
Oui, je connais quand même. Je vous parlais un peu de classe et un peu d'amour, parce que ça s'est passé le jour d'une Saint-Valentin, le 14 février 1986. C'est vous avez sûrement la rêve.
T'étais pas né ?
J'étais pas né, mais j'en ai tellement entendu parler que c'est le premier truc qui m'est revenu quand on a eu les thèmes de ce débat.
Donc t'es en train de me dire que ça te donne de l'émotion alors que tu l'as pas vu, alors qu'Antoine Rigaudot tu l'as pas vu, mais ça te fait rien, c'est ça ?
Écoute, non, où je veux en venir, Fred, et puis tu pourras me...
Monsieur Weiss, laissez parler la défense.
C'est Larry Bird qui, à la fin d'un road trip, donc en 14 février 1986, ça fait 2 semaines qu'ils sont en road trip à l'ouest, ils finissent par un match contre Portland. Pendant ce road trip, Larry Bird, il a un peu accompli toutes ses missions, tous ses défis qui s'étaient lancés, donc il s'en lance un dernier, c'est de jouer pendant 3 quarts temps avec la main gauche contre Portland. C'est vraiment il l'annonce la veille comme ça pour histoire de bien humilier un peu ses adversaires. Au final, il a pas joué vraiment, il a pas marqué tous ses points avec la main gauche. Il a marqué 22 de ses 47 points de la main gauche. Beaucoup de shoots dans la raquette, donc des shoots à l'intérieur, mais il fait il finit le match à 47 points, 14 rebonds, 11 passes, donc dont 22 points avec la main gauche, la victoire en prolongation en prime, et il finit, moi c'est ce que j'adore, il finit le match en annonçant. 2 jours plus tard, ils ont un match contre les Los Angeles Lakers, donc les éternels rivaux des Celtics, et il annonce « C'est pour eux que je réserve ma main droite ». Voilà. Je trouve que tout est parfait.
C'est du Larry Bird dans le texte.
En termes de trash-talking, il était incroyable, Larry Bird.
C'est le maître.
C'est comme la fois où il va au All-Star Game, il rentre dans les vestiaires, il dit « Ça sera qui le deuxième au concours de shoot à 3 points ?» Ouais, c'est juste un maître en la matière.
Il finit le concours en levant la main, c'est bon, le dernier ballon qui vaut 2 points. Incroyable, Larry Bird.
Il y avait une autre action comme ça mémorable qui m'a rappelé celle de Kemp, c'est tu n'y as pas pensé à Shaquille O'Neal sur Chris Dudley ? Quand il lui dunk dessus,
et
il
le repousse
mais d'une
et
manière...
Et après, Chris Dudley lui envoie le ballon
et
dessus.
Et lui envoie le ballon dans la tête.
La violence.
Moi, je pensais à Lance Stevenson qui souffle sur LeBron.
Évidemment.
En 2014, qui est devenu un mème aussi.
Le baiser mortel.
On le voit faire comme ça. J'aime bien. Alors après, est-ce que ça a marché pour le déstabiliser? Je crois pas.
Oui, de fou. Il n'a pas fait une carrière en plus.
Indiana, là pour ce premier tour des playoffs, pas vraiment
exister. Il fallait tenter,
exactement. Les messieurs, c'est le moment tant redouté du quiz dans Basket Time.
Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Ah,
le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
Qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Ça prend pour Julien Lepers.
Ah oui.
Ah ouais.
Ah, je sais qui c'est.
Moi,
c'est,
je sais pas.
C'est putain, je sais qui c'est.
T'as des cerveaux abîmés, c'est pour ça, c'est tout.
Mais faites pas les paysans. T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars.
Plus, Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Tu peux me laisser parler.
Profitez-en sans Stephen Brun, c'est un peu comme si vous pouviez être défenseur de l'année sans Victor Wembanyama pour les prochaines saisons. C'est votre moment ou jamais. Oui, c'est... Alex, c'est déjà... On te récupère hein, quand même pour le quiz.
Oui, oui.
On commence par des questions de rapidité, messieurs.
Ouais, je vous laisse les points.
Qui a dit « Je ne sais pas quoi faire de plus, je ne vais jamais le gagner, ils ne me le donneront jamais, la Ligue
Anthony
ne
Davis.
M'aime pas. » Anthony Davis, oui, rapide. Ouais, j'ai dit que c'était facile.
Mais c'est son dossier, ça, c'est son...
Voilà.
C'est un grand, c'est pour ça.
Autre question de rapidité. Qui est le nouveau coach des Brooklyn Nets?
Le coach du Canada, Fernando, je sais plus quoi.
Non,
c'est le coach du Canada.
Bon. Oui, mais c'est pas bon. Moi, je
L'espagnol
bon.
Qui.
Mais je pourrais, tu vas me faire toutes les paraphrases possibles. Le nouveau coach, j'ai
Fernandez,
Brooklyn Nets.
Fernando, enfin.
Le prénom.
Jean Cordy Fernandez.
T'as pas été aidé.
Bah non.
La persévérance, faut que tu lui accordes.
Oui, je vais lui accorder parce que messieurs, vous avez pas trop essayé de le titiller.
J'ai totalement.
Jordi Fernandez, coach associé.
On est en play-off, Arnaud.
Mais oui,
tu arrêtes
nos équipes qui sont en play-off et là on a des.
Ouais, mais c'est l'actualité.
Actualité.
Ah ouais, ils sont bien en play-off, Brooklyn. Hein.
Et Sacramento aussi, puisque c'est
ils
le coach.
Ils ont fait les play-in au moins, Sacramento.
C'est le coach associé des Kings. On dit plus assistant, on dit coach associé. Maintenant, c'est un peu la grande mode, un peu partout. Et sélectionneur du Canada, il a amené les Canadiens la médaille de bronze au dernier mondial. Et attention à l'épouvantail pendant ces Jeux Olympiques, les Canadiens, surtout s'ils ont Jamal Murray. Quel est le record? Ça, c'est une question historique. Rapidité. Quel est le record de points sur un match de play-off?
62.
Non.
Record de points cumulés.
C'est plus ou moins
un record de points sur un match.
62, 67,
63.
63
Michael Jordan.
Face à Boston, effectivement, ouais. Pour Michael MJ. Premier
c'est
point pour Félix.
Folle, c'est une actu folle.
Qui a dit, je fais en VO, I consider this boy a great player as much as a dirty guy.
C'est moi.
C'est Fred Veil, c'est bon. C'est la traduction, ça déclare.
J'ai reconnu l'accent français de Fred Veil.
I hate him for the things that he did. C'est ça déclare sur Joel Embiid, mais traduite par les Anglais, par les Américains, ça traîne sur tous les sites The Athletic.
Non, mais surtout ils disent boy, et je trouve que la traduction n'est pas très bonne. J'ai dit oui, mais sur le reste de la traduction, ils disent boy comme si j'avais traité de petit garçon, alors que on dit le garçon, ce garçon-là. Non,
et que tu as dit ça le type.
Très oui, très, ça, très autocentré ce quiz en tout cas.
Exactement.
Mais il est pas là, Stéphane.
Question de rapidité, quelle est la date de naissance de Fred Veil? Non, je rigole.
Je savais en plus. Là.
Qui est le joueur le plus surcoté de la Ligue selon un sondage
Rudy
des
Gobert.
Joueurs
Rudy ouais. Gobert.
À 13%.
C'est toi, pardon, Félix.
C'est 13%, je crois. Ou
13%.
Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que ça revient chaque année, ce truc-là.
Oui, c'était déjà le cas l'année dernière.
C'est un délit de sale gueule, parce que quand on voit le deuxième, vous l'avez, c'est Jordan Poole.
Ça, c'est normal.
Ensuite, Trae Young, Dylan Brooks et James Harden. Jordan Poole, logiquement, il n'y a
alors,
quand même pas de...
Juste, dans le dernier de ce classement, enfin, en tous les cas, affiché, c'est Tatum, quand même. Donc ça c'est quand même assez
il y a beaucoup de jalousie. On sait que Rudy, il y a de la jalousie.
Tatoum, il fait quand même le taf quoi, c'est un peu dur de...
Beaucoup sont jaloux bêtement du contrat max qu'il a par exemple.
Mais ça intéresse tous les joueurs ou...
Alors c'était un panel
c'est 140 joueurs en tout.
Ils ont posé la question
à Anthony Davis.
Tout le monde n'a pas répondu sur chaque question, notamment la question des surcotés, ils se sont pas tous mouillés.
Il y en a qui sont plus à l'aise pour répondre à ce genre de
trucs. C'est anonyme pourtant.
3 points pour Fred, 2 points pour Félix, 0 pour Alex.
Super.
Trois franchises aujourd'hui n'ont jamais fait de finale NBA. Lesquelles? C'est chacun votre tour pour un point. Il y en a trois. Comme Alex est derrière, on commence par lui.
Pelicans.
Les Pelicans, c'est bon.
Les Kings.
Les Kings ont fait une finale NBA. Je vais te dire l'année, mais pour moi, les Kings ont fait une finale NBA.
Ça va être en finale de conf ou contre les Lakers, non?
Non, non.
Ils sont champions NBA 51. Ah. En tant que Royals de Rochester.
Oh, le pied.
Et, bah oui. Et donc, Fred, tu as la possibilité, donc Alex marque un point. Fred, tu as deux franchises qui n'ont jamais fait de finale NBA et qui sont en play-off aujourd'hui, hein, j'avais précisé.
Alors, je dirais les Pacers, mais comme ça, au hasard.
Hein? Et non, c'est pas bon.
Les Lakers, ils ont joué les Lakers, les Pacers en finale NBA.
C'était quand? Ah oui, 99, mais oui, quand il y a eu ce vol, justement.
On peut refaire un tour d'enchères.
Oui, bien sûr. Minnesota?
Les Timberwolves, c'est bon. Bah oui. 2 points pour Alex qui surfait la cerise. Et du coup, bah, je te donne une opportunité, Félix, de trouver la dernière franchise qui est en playoff aujourd'hui, mais qui n'a jamais fait de finale NBA.
Est ou Ouest Ah, bah si, facile. Clippers.
Les Clippers, c'est bon.
Oui, bien sûr.
Voilà, Félix qui égalise à 3 partout. Et Alex est revenu avec 2 points. J'attendais je vais vous faire un, et on va s'arrêter là, un vrai ou faux sur Jamal Murray.
Oh.
Voilà. C'est simple. Il y a deux séries, vous aurez deux questions par personne. On commence par Fred. Jamal Murray a 28 ans.
Vrai ?
C'est faux, il a 27. Félix, cette saison, j'ai réussi un triple-double. Jamal Murray. Est-ce qu'il a réussi un triple-double ? C'est faux, c'était l'an passé. 17-10-14 contre Indiana en janvier 2023. Alex peut égaliser. Jamal Murray a disputé le Nike Hoop Summit 2014 avec Nikola Jokic et Damien Gliss.
Vrai.
C'est vrai. Il a été sacré meilleur joueur en 2015. Pour Jamal Murray, il était encore à Kentucky. Hein. Il n'était pas encore à Kentucky, c'était des lycéens.
Il fait Final Four en 2015.
Bah, l'année de Sadrez.
Non, 13, 2013
non, non, l'année de Sadrez. L'année.
Bah, 2014.
Il fait qu'une année. Jamal Murray, je crois que j'aurais dit.
C'est 2014 ou 2015, je crois.
J'aurais dit 2015-2016.
Il est avec Towns et Kyle Stein et toute l'équipe. Là.
Il est drafté.
Ils font le 38-0.
Pour moi, il est drafté 2016. Hein, donc, c'est 2015-2016, ouais, son année chez les Wildcats. Donc, c'était vrai. Donc, 1 point pour Alex. 10 points pour lui lors de son premier Hoop Summit. Il a fait aussi celui de l'année suivante. 5 points pour Jokic et 4 points pour Damien Gliss qui avait joué tous les
comme
deux
quoi.
Un quart d'heure. On revient à Fred. Le papa de Jamal Murray, a joué au basket durant sa jeunesse avec le champion de boxe, champion du monde de boxe, Lennox Lewis.
C'est vrai.
C'était très précis quand même.
C'était,
comme...
trop précis pour...
c'était une belle invention sinon.
Originaire du même coin du Canada, les deux, et après Lennox Lewis s'est orienté vers la boxe où il a fait une brillante carrière, un champion du monde dans la fin des années 90, des combats incroyables. Mike Tyson, hein, je crois, notamment Lennox Lewis.
Ne nous regarde pas, on n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Mais anecdote sympa.
Oui. Voilà. Félix, donc Fred a 4 points, Félix 3, Alex 3, vous pouvez tous égaliser. J'ai pas de question de départage, donc ça va être compliqué. Autrement dit, ça serait bien que vous perdiez. Non, je rigole. Mon surnom, donc le surnom de Jamal Murray, est la flèche bleue. Félix.
C'est faux.
C'est vrai. The Blue Arrow. Je parle pas
ça
anglais, moi aussi.
Ça a rapport avec le cheval qui est à l'aéroport de Denver ou pas du tout ?
Ce serait pas en rapport avec Kentucky. Je me retourne vers l'expert NCA.
Parce que je sais qu'il y a un cheval bleu, je crois, à l'aéroport de Denver. Alors est-ce que je sais pas
moi, si j'ai pas souvenir de ce surnom-là en NCA, mais ça se trouve, ça...
Et pour terminer,
Kentucky joue en bleu.
Balle d'égalisation à Kentucky. J'ai côtoyé Bam Adebayo.
Bah c'est facile pour lui, c'est un spécialiste de NCAA.
Bah c'est si facile que ça, ça fait 10 secondes qu'il hésite.
Ouais, attends, il y a 50 joueurs qui sont passés par Kentucky qui ont été draftés. Là. Est-ce que c'était la génération Adebayo ?
Ils ont pu se côtoyer. Hein.
De mémoire, je pense qu'Adebayo est une génération après, donc non.
C'est tout à fait exact, Alex. Il est arrivé en 2016, au moment où Jamal Murray se fait drafter. Question subsidiaire, question de rapidité. Jamal Murray est drafté en 2016. Quelle position ?
15 ? 17 ?
Non.
22 ?
Non, 14. Non.
Plus haut, c'est...
Alors
c'est...
Félix, t'es éliminé parce que t'es
8.
Pas... T'es...
7. Non.
7, c'est bon. Victoire d'Alexandre Biggerstaff au buzzer à l'image de Jamal Murray cette nuit. Bravo Mr. Biggie. La flèche de Basket Time a décoché en temps et en heure pour abattre Fred Weiss. Merci beaucoup messieurs, ce fut un plaisir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Basket Time. Ciao, ciao.
RMC Basket Time.